RMC, face aux grandes gueules.
Elle est substitut du procureur en région parisienne. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle « Panthère » aux éditions Michel Lafon. Valentine Vendôme, bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame, la substitut du procureur, c'est comme ça qu'on dit ?
On peut complètement dire comme ça.
On est d'accord que Valentine Vendôme, c'est un pseudo.
Absolument, c'est un pseudonyme.
Vendôme pour Place Vendôme ?
Vendôme pour la place Vendôme, qui est à la fois une place parisienne historique et en même temps le lieu du ministère de la Justice. Et j'ajoute, parce que dans le cadre de la promotion du roman, j'ai signé mon roman dans ma région natale qui est le Tarn. Et figurez-vous que la ville de Rabastens, dans laquelle réside toute ma famille, le réseau local de résistance là-bas s'appelait le réseau Vendôme et je ne le savais pas. Et donc à l'occasion d'une signature là-bas, des anciens, on portait à ma connaissance que c'était le nom du réseau de résistance.
Pourquoi un pseudo ? Parce que là, la téloche, on va dire « Ah, ben c'est machine
!» Elle qui m'a collé 20 ans.
C'est ça. Tout le monde va dire « Ah ben c'est Valentine !»
Ouais. Et Valentine Parquet, c'est elle.
Pourquoi ?
J'ai choisi de prendre un pseudonyme parce que je ne voulais pas que dans le cadre de mes fonctions, des choses que je peux dire dans le cadre de mon roman puissent m'être reprochées comme étant ma pensée telle quelle, dans la mesure où il s'agit quand même de littérature.
C'est un roman, non ?
D'autant plus que vous mettez
comme avocat.
D'autant plus que vous mettez en scène une magistrate et on peut se dire, est-ce que cette magistrate, c'est elle ? Ça, c'est toujours la question qu'on pose aux romancières. Mais quand même, aujourd'hui, être magistrate, c'est pas simple. Hein. Par rapport à tout ce qu'on a pu raconter depuis une semaine, 10 jours, sur le fonctionnement de la justice, sur les procureurs. Comment vous vivez tout ça ? Vous trouvez c'est injuste, le procès qu'on fait à la justice ? Ou est-ce qu'on a raison de dire qu'aujourd'hui, on a un problème avec ce système-là ?
Alors moi, je vais commencer par vous répondre sur mon métier. Moi, je fais un métier que je trouve à la fois magnifique et particulièrement exigeant. Exigeant dans la charge de travail qu'il requiert, exigeant dans l'humanité qu'il demande, dans la compétence et la technicité qu'il demande. Et j'avais envie de le donner à voir de l'intérieur par ce roman, parce que je me rends bien compte, en étant magistrate et à chaque fois que je discute avec des gens qui ne sont pas ou avocats ou enquêteurs ou greffiers, enfin des gens qui ne participent pas à l'œuvre de justice, il y a une méconnaissance absolue de la justice, de l'institution judiciaire, de la façon dont on travaille, des questions que nous nous posons.
Du rôle des procureurs.
Absolument.
Par exemple, c'est quoi un substitut de procureur ?
Alors, un substitut du procureur, en fait, c'est un grade. Substitut du procureur, cela veut dire que je substitue mon ou ma chef, qui est le procureur du ressort auquel j'appartiens. Et donc, c'est un grade. Il y a le grade de substitut du procureur, vice-procureur, procureur adjoint et enfin procureur de la République. Mais à l'audience, quand on s'adresse à moi, on me dit madame le substitut ou
vous
madame le procureur.
Vous représentez l'accusation.
Alors moi, c'est une formulation qui me déplaît dans la mesure où le rôle du parquet à l'audience est beaucoup plus nuancé que cela. À l'audience, le procureur requiert au nom de la société. La société, c'est se tenir à égale distance de la victime, bien sûr, de l'auteur des faits, qu'il soit prévenu si c'est du correctionnel, accusé si c'est du criminel. Et donc moi, j'aime à penser que quand je me lève, déjà ça n'est pas Valentine la citoyenne, c'est la magistrate qui se lève et qui donne à voir ce que peut être la position de la société sur les faits en question et sur la peine la plus adaptée pour y répondre.
Alors, puisqu'on est dans le petit quiz, là, quelle est la différence pour ceux qui nous écoutent quand on dit le parquet et le siège ?
Alors, excellente question. C'est assez simple finalement. On est tous magistrats.
Le parquet est au sol.
Le siège, c'est les errements au-dessus.
Ne soyez pas distraite par l'avocat Charles Consigny qui va faire ça pendant toute l'émission.
Nous sommes tous magistrats.
Je cherche à déstabiliser le parquet.
Mais c'est vrai que
vous aurez bien du mal.
C'est vrai que vous vous détestez entre avocat et procureur.
Et pour tout vous dire, je suis une ancienne avocate moi-même. Donc je m'entends d'autant mieux avec les auxiliaires de justice que sont les avocats. Donc, nous sommes tous magistrats, nous avons tous le même maillot. On est tous magistrats, on porte tous la même robe. Mais au sein de la magistrature, il y a les juges. C'est ceux qui sont assis, pour résumer, et qui décident. Juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d'instruction, juge civil, président de correctionnel ou de cour d'assises. Et il y a les procureurs, on nous appelle le parquet parce que nous nous levons sur le parquet pour requérir. En tout cas, c'est comme ça qu'on retient le siège parce que les magistrats, quand vous les voyez, sont assis du siège. Et nous, les procureurs, debout, en train d'essayer de les convaincre.
Mais pour reprendre l'affaire de la disparition, de la mort de cette petite fille, Liana, on a beaucoup parlé du procureur, le procureur qui est censé ouvrir une enquête, mener une enquête, demander à des gendarmes d'interpeller, de mettre en garde à vue. C'est vraiment le procureur qui est au départ de toutes ces enquêtes judiciaires ?
En fait, ce qui se passe, et c'est aussi ce que j'ai voulu donner à voir dans le roman, parce que ça me paraissait extrêmement mal connu, c'est qu'en fait, il n'y a pas une enquête. en France qui ne passent pas par un procureur de la République. Si vous voulez, j'aime à dire, pour expliquer les choses schématiquement, qu'on serait un peu des sortes d'urgentistes. C'est-à-dire que tous les dossiers arrivent à nous, des faits très graves, des faits peu graves, etc. Et nous, on doit rapidement mettre la procédure en état, qualifier les faits, c'est-à-dire dire si on est sur un viol, une agression sexuelle, des violences, etc. Et ensuite, orienter la procédure, c'est ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, donc saisir un juge d'instruction si ce sont des faits criminels ou particulièrement complexes, classer si on estime qu'on n'arrivera pas à démontrer la matérialité de l'infraction, renvoyer à l'audience, etc.
Quels sont les critères pour prioriser les affaires? Comment vous faites? Parce que toutes ces affaires, tous ces dossiers arrivent sur votre bureau. Comment vous choisissez les dossiers les plus importants? Visiblement, vous n'êtes pas assez nombreux, c'est ce qu'on a compris aussi. Donc, il faut faire des choix.
Ça, c'est évident.
En fait, je fais le constat que les moyens de la justice ont été objectivement augmentés ces derniers temps. Pour autant, le nombre de procureurs par habitant est un des plus faibles d'Europe. Je crois qu'on est les avant-derniers quasiment, ce qui est fou quand on voit les tâches qui sont celles du procureur.
Donc, le procureur a combien de dossiers sur son bureau? En moyenne?
En fait, on a plusieurs offices quand on est procureur, mais je vais vous parler par exemple du magistrat qui tient une permanence téléphonique. Parce que partout en France, là j'ai des collègues qui ont un casque de téléopérateur et qui sont toute la journée, qui reçoivent une centaine, entre 70 et 100 appels d'enquêteurs par jour, qui leur parlent, un coup c'est des fausses plaques, mais un coup c'est un viol en flagrant délit, un coup c'est des violences urbaines, un coup etc. etc. Et donc le but c'est d'aller vite au téléphone, sachant que vous n'avez pas la procédure sur les yeux. Et donc il faut, encore une fois, la mettre en état, donner des directives d'enquête, qualifier les faits au mieux et les orienter le plus rapidement possible. Donc ça, c'est l'hypothèse de l'appel, c'est-à-dire un enquêteur a sa procédure, il appelle le parquet, il est sans doute en attente, et souvent les enquêteurs nous font ce reproche qu'ils attendent beaucoup, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'appels, et on leur répond, etc. Ensuite, il y a le reste, il y a les mails que vous recevez, qui sont innombrables aussi, il y a le courrier que vous recevez. Quand j'étais au parquet de Meaux, chaque semaine, je recevais une pile avec peut-être 50 à 70 courriers.
Et donc, il y a encore des courriers écrits?
Ah mais on a une quantité de courriers dans la justice que vous n'imaginez pas. C'est des procédures qui vous arrivent d'un autre parquet, c'est une procédure qui vous arrive d'un enquêteur, mais comme les enquêteurs, eux aussi, sont à flux tendu, donc ils vous rendent compte sur les affaires qu'ils estiment les plus prioritaires, donc un certain nombre d'affaires vous arrivent par courrier. Et évidemment, quand on est magistrat du parquet, une des choses qu'on vous apprend, c'est le caractère fondamental de la gestion de flux. Il faut être à jour sur votre courrier, dans la mesure du possible.
Il faut savoir gérer les flux.
Ah mais la magistrature, je trouve qu'on ne le dit pas assez, parce que parfois on a peut-être l'impression que dans notre tour d'ivoire, loin du monde, des mortels, nous ne faisons pas grand-chose. C'est un travail éreintant, c'est gérer des flux en permanence, c'est des audiences, et Maître Consigny pourra le dire, qui sont toujours plus tardives. En fait, comme tous les services publics, si on veut que ça fonctionne, tous on mouille un peu plus le maillot que ce qu'on devrait.
Avec l'angoisse de louper quelque chose, de louper une affaire grave.
L'angoisse, elle est permanente.
De pas protéger suffisamment les citoyens.
Lorsque j'étais de permanence à Meaux, ça me réveillait la nuit. Donc j'étais toute la semaine de permanence et la nuit, je me réveillais en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce dossier? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai bien envoyé l'autorisation? Est-ce que j'ai bien rappelé l'enquêteur qui m'avait demandé? Évidemment, les magistrats, contrairement à une idée répandue, on passe notre temps à réfléchir à ce qu'on a fait, à nous poser des questions. Nous sommes hantés par les décisions que nous prenons. Hantés.
Mais est-ce qu'il y a des affaires ou des appels qui arrivent et qui encombrent la justice pour rien, finalement?
Alors moi j'ai pas d'avis à donner, mais
non mais vous rendez compte en disant ça pourrait être réglé sans passer par la justice, quoi. Vous voyez, avec une médiation, avec une conciliation, avec un dialogue, simplement en disant voilà, ça me prend du temps.
Est-ce que la judiciarisation un peu la vie en société ne complique pas les choses? C'est-à-dire tout devient maintenant judiciaire.
Oui, mais ce qui est un peu surprenant, c'est ce qui me paraît totalement aberrant, c'est que c'est la même personne qui juge, comme vous avez parlé, des fausses plaques et un viol d'enfant, quoi. Ça devrait pas être la même personne, non, parce que c'est pas du tout la même chose et la même gravité.
Qui
va décider une mise en examen ou éventuellement que le dossier est vide. Mais c'est pas normal. Je veux dire, il devrait y avoir personne, celle qui s'occupe de viol d'enfant ne peut pas consacrer du temps à un vol de plaque.
En fait, c'est toujours la même question. Plus vous appartenez à une juridiction qui est grande, à un parquet qui est grand, plus vous avez des personnes spécialisées. Mais n'importe où, moi, quand j'étais de permanence de parquet à Meaux, le week-end, vous êtes tout seul dans le tribunal, tous les appels sont pour vous. Quoi qu'il arrive, c'est pour vous. De nuit, quoi qu'il arrive, c'est pour vous aussi. Donc, heureusement, je voudrais aussi saluer la grande solidarité qui règne entre les membres des parquets, parce qu'un parquet, c'est une équipe. Et c'est la chance qu'on a au parquet, c'est qu'on travaille en équipe. Donc, on peut s'aider les uns les autres, l'autre se soutenir, etc. Je veux dire, moi, il n'est pas arrivé une nuit de permanence, de nuit à Meaux, avec un appel à 3h du matin pour des faits gravissimes dont je ne savais pas quoi faire, que je n'ai pas un collègue ou quelqu'un de ma hiérarchie qui réponde et qui vienne à mon soutien. Mais je suis d'accord avec vous. On est parfois noyé par des dossiers du quotidien.
Mais au regard de ce que vous nous racontez, justement, je reviens un peu à la question que j'avais posée initialement. Comment vous avez vécu ces derniers jours? On a beaucoup fait le procès de la justice en disant que rien ne fonctionnait. J'ai entendu même des gens dire la justice est morte dans ce pays. Comme vous y contribuez à ce système, vous trouvez ça injuste ou en même temps vous dites effectivement il va falloir qu'on réfléchisse peut-être à la façon dont on rend la justice, surtout comment on explique aux Français le fonctionnement de cette justice?
Comme tous mes collègues, je crois qu'on est extrêmement meurtri de ce qui s'est passé pour la petite Liana. On est tous, je crois, extrêmement concernés sur le dysfonctionnement qu'il y a eu. Il y a une enquête en cours administrative pour déterminer s'il s'agit de dysfonctionnement individuel, de dysfonctionnement systémique ou les deux. Donc ça, moi, je n'ai rien à en dire. Nous verrons bien les conclusions. Mais je crois que magistrats, nous entendons en ce moment deux choses que nous dit la société. Un, la défiance que la société a envers nous. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce roman. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de salons un peu partout en France et j'échange énormément avec des citoyens qui veulent me parler de la justice, me donner leur avis. Et c'est l'occasion pour moi de dire ce que j'ai voulu faire dans ce roman. Donc il y a entendre, il me semble, la défiance parce que nous sommes trop mal connus. Les gens ne savent pas qui nous sommes, pas comment nous travaillons. Oui,
on vous connaît, mais on se porte normalement.
Oui, mais ce qui est dommage, c'est que partout en France, il y a des audiences tous les jours, toutes les après-midi. Moi, j'encourage les gens à pousser la porte d'un tribunal un jour et d'aller voir comment on rend la justice.
Donc, vous êtes pour la télétransmission, enfin la vidéo, le fait de filmer les audiences?
Ça me paraît bien.
Justice TV fait ça, je crois. Je vois régulièrement des vidéos. Je trouve ça passionnant de voir cette justice du quotidien. Et donc je voulais dire deux choses. Ouais. Un, que nous prenons acte de cette défiance du peuple français au nom de qui nous rendons la justice à notre égard. Je crois aussi que nous entendons, et ça je trouve ça très intéressant, la société qui nous dit vous devez faire mieux, nous devons faire mieux sur la question des violences sexuelles sur mineurs. Et cette question-là, c'est aussi une question qui baigne tout mon roman.
Question de la violence sur mineurs, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement.
Ah, mais évidemment qui me touche particulièrement. Mais si vous voulez, on ne devient pas magistrat avec la difficulté de ce métier si on n'a pas une foi profonde dans notre métier. Moi, j'ai une foi inouïe dans mon métier. Je vous dis pas qu'on fait toujours tout bien. Je vous dis que je ne connais que des gens qui, comme dans tous les services publics, comme des professeurs, des médecins, des infirmiers, des éducateurs.
C'est une vocation pour vous?
C'est absolument une vocation. Mais il en va de même de la très grande majorité des collègues avec qui j'ai la chance de travailler. On y croit tellement. Moi, j'y crois complètement à mon métier. C'est la chose la plus importante pour moi. C'est pour ça que c'est ce que je voulais raconter dans ce roman. Et la question.
Alors, pourquoi passer par un roman? Pourquoi ne pas tout simplement, peut-être parce que vous avez un devoir de réserve, mais vous auriez pu faire confession d'une magistrate et puis raconter votre vie au quotidien. Vous êtes passé par le polar, par le roman policier, en inventant des personnages pour raconter tout ça. Pourquoi?
Parce que je trouve que la fiction, c'est toujours le meilleur vecteur pour apporter des idées. Là, tout d'un coup, c'est pas Valentine qui est en train de parler, c'est une héroïne. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette héroïne? Est-ce que finalement, on est en empathie avec cette magistrate qui se bat et qui est face à un dossier qui la confronte à ses blessures intérieures? Et j'avais envie de ça, j'avais envie de montrer le quotidien de la justice, mais par une œuvre de fiction. D'ailleurs, j'ai la chance que les droits ont été achetés pour éventuellement faire une série télévisée, donc on aura peut-être la chance de voir Maxime Sinclair comme personnage de série télé. Et donc, une image réaliste de la justice.
Valentine Vendôme, magistrate. Le livre s'appelle Panthère. Il est aux éditions Michel Lafond. Vous restez avec nous. Question de Joël Dagosséry, de Maître Consigny, de Mourad Boudjelal. On a la chance d'avoir une substitut du procureur, Valentine Vendôme. Autant en profiter. La parole est rare. Donc, on l'écoute attentivement dans les GG, dans les grandes gueules. Il est 11h15. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4. Vous êtes avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On reçoit un substitut du procureur en région parisienne, Valentine Vendôme, auteur d'un polar qui s'appelle Panthère aux éditions Michel Lafond. Mais ça donne l'occasion de parler de la justice, parler du fonctionnement, parler de son métier aussi. Joël Dagosséry.
J'ai lu le livre que j'ai trouvé très bien.
Je vous remercie.
C'est vrai que d'habitude j'aime bien les romans policiers, les enquêtes, etc. Par contre, c'était un petit peu dur, je vous avoue, parce qu'il s'ouvre quand même sur un meurtre d'enfant.
27 coups de couteau.
Et c'était en rapport avec l'actualité. C'est vrai que j'ai pas j'ai pris du temps quand même à prendre du plaisir dans le livre. Je veux pas tout dévoiler, mais notamment parce qu'il y a un des suspects qui est quand même amoureux d'une fille de 16 ans. Enfin, c'est un peu voilà, c'est vraiment, on rentre vraiment dans ce qui est de l'actualité, etc.
J'aurais préféré des personnes âgées.
Non, mais c'était trop en résonance, c'est trop frais en fait, et c'est un hasard du calendrier, j'imagine.
Absolument.
Donc voilà, et on voit vraiment cette procureure qui est, je dirais, procureure un peu torturée en fait, voilà, tout au cours du livre. Mais j'ai une question à propos de ça, parce qu'il y a une partie dans le livre, alors on arrive un peu vers la fin, qui m'a vraiment saisie, parce qu'en fait, il faut savoir que voilà, elle, il y a une sorte d'errance sur les suspects, etc. Mais elle se demande en fait, et là il y a la question du biais qui arrive et qui pour moi est assez dangereuse. C'est ma plus grande peur lorsqu'on fait face soit à un recruteur, soit à la justice, parce que on aimerait que les personnes soient le plus neutres possible. Et cette procureure se pose la question de ce qu'il a induit en erreur. Est-ce que c'est son féminisme? Est-ce que c'est parce que il y a plus d'agresseurs hommes, etc. Parce qu'on va pas dire qui est l'accusé, enfin qui est l'auteur du, le coupable. Non, voilà,
je
exactement.
Spoile pas.
Non, je vais pas spoiler, mais voilà, elle s'interroge sur ce qui a pu l'induire en erreur. Déjà à travers son histoire qui est assez compliquée, mais à travers aussi ses propres jugements, etc. Et je me dis, mais en fait, à quel moment, lorsqu'on est procureur, en fait, on cherche quand même à régler ses propres biais, ses propres problèmes, avant de pouvoir prendre en charge ceux de la société. Parce que nous, en tant que justiciables, c'est pas qu'on voudrait être face à un robot, j'irai pas jusque-là, mais on aimerait être face à une personne qui ne va pas tomber sur des biais et qui va au mieux régler psychologiquement, voire psychiatriquement, ses propres traumatismes.
Je vous remercie de poser cette question. Je vous remercie évidemment d'avoir lu mon roman. J'y répondrai de deux façons. À mon sens, la question que vous posez, c'est notamment celle de la santé mentale des magistrats, ouais. Parce qu'il faut être honnête, on est exposé à une violence. Mais la violence à laquelle nous faisons face, mais pas que nous, évidemment, les avocats, les enquêteurs, les travailleurs sociaux, etc. Mais cette violence-là, en effet, moi, je pense qu'il est fondamental de prendre grand soin de sa santé mentale, déjà parce que, à mon sens, on ne travaille pas dans la justice.
Alors comment vous faites ?
Si on n'a pas soi-même quelque chose peut-être à régler, comment on fait ? Écoutez, on voit des psys, on discute entre nous. Il faut toujours s'observer soi-même quand on est magistrat, justement, pour ne pas avoir de biais. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Joël, c'est que moi, justement, je me dis souvent que si j'étais jugée par quelqu'un, je crois que je voudrais que ce soit quelqu'un d'humain. Justement, parce que parfois, c'est parce qu'il y a une blessure que ça fait écho à la blessure chez l'autre, et c'est ça qui donne aussi à la justice son humanité. Moi, ma façon dont je procède quand j'observe les dossiers ou à l'audience, je me dis, je me comporte comme celle dont j'aimerais qu'elle me juge, comme celle dont j'aimerais qu'elle requière me concernant, comme celle dont j'aimerais qu'elle examine ma plainte. C'est ça qui me drive. Et donc, justement, moi, j'ai tendance à dire que c'est l'humanité des magistrats qui
donc
fait...
Donc, surtout, ne pas devenir une machine, quoi, en fait.
Exactement, absolument.
Alors, vous n'êtes pas juge, mais sur les juges d'instruction qui doivent instruire à charge et à décharge, des fois, on a quand même l'impression... Alors, on n'est pas dans les dossiers, mais...
C'est pas facile.
On a quand même l'impression que, des fois, l'équilibre n'est pas totalement là.
Alors, tous les magistrats font à charge et à décharge. C'est-à-dire, les parquetiers, nous, quand on supervise des enquêtes, tout autant, on fait à charge et à décharge.
Mais reconnaissez qu'elle a, humainement, c'est pas intuitif, c'est même contre-intuitif.
De faire à charge et à décharge?
Bah oui, ouais. Parce qu'on a toujours, forcément, comme prendre le mot, un biais. Même si, effectivement, intellectuellement, il faut le faire, mais est-ce qu'on n'est quand même pas poussé à aller vers au contraire chargé ou au contraire.
Je me permets de vous préciser.
Côté procureur plutôt chargé.
Je me permets de vous préciser qu'on est des techniciens de l'enquête avant toute chose, c'est-à-dire que moi et tous mes collègues, vous nous donnez une procédure, on est capable de vous dire si elle est complète, s'il manque des actes, etc. Donc en fait, avant même de penser que c'est nous individuellement, on respecte des règles et puis il y a une technique d'enquête. Je voudrais le dire comme vous me tendez un micro, il faut faire attention, la vérité judiciaire, ça n'est pas la vérité tout court. La vérité judiciaire, c'est ce qui, de la vérité tout court, est susceptible d'être démontré en justice. Donc évidemment qu'on inspecte à charge et à décharge.
Oui, mais... Dans les affaires de violence, notamment faites aux femmes, il y a une accusatrice qui dit, voilà, j'ai été violée. On dit, on la croit. Et puis la personne qui a été accusée obtient non-lieu.
Ça veut
dire quoi en fait ? Est-ce que ça veut dire qu'il s'est rien passé ou on n'a pas réussi à démontrer qu'il s'était passé quelque chose ?
Une décision de classement sans suite, une décision de non-lieu, un acquittement, une relaxe, cela veut dire la justice n'est pas capable de démontrer que les faits dénoncés sont caractérisés. Donc toutes les fois où quelqu'un qui est accusé de violence sexuelle dit « Ah bah non, circuler, il n'y a rien à voir, il y a non-lieu », je suis désolée, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu. J'en veux pour preuve...
Ah, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu.
Bien sûr que non. J'en veux pour preuve la multitude des faits d'inceste. Là, on est sur 70...
Donc la justice n'est pas passée.
La justice est passée avec ce qu'elle peut. Nous, on est humains avec des moyens qu'on a. Avec
les modalités. Sera pas condamnée.
Avec les modalités de preuve qu'on a.
On pense qu'elle a commis les faits qui lui sont reprochés.
On fait ce qu'on fait avec ce qu'il y a dans le dossier, avec ce qu'il est possible de démontrer. Si vous voulez me demander, madame, avez-vous déjà classé des plaintes de viol en sachant très bien que ce que disait la victime ne pouvait avoir été inventé? Évidemment que oui. C'est un contentieux.
Ça, vous le savez, ça.
C'est-à-dire quand on lit la plainte, on se rend.
Mais ça rend pas dingue.
Vous seriez capable, vous, d'aller dans un commissariat et d'inventer que vous avez été violée, ce que ça vous a fait, comment vous avez ressenti, les éléments précis qu'on va vous redemander à plusieurs reprises. Les gens n'inventent pas.
Oui,
les chiffres des mensonges.
Dingue, finalement, de savoir que la personne
quasiment
a forcément dit la vérité et que le violeur, finalement, ne sera jamais condamné.
Ça fait partie du poids massif qui est sur nos épaules quand on est magistrat. On se bat sur les dossiers pour justement que ceux qui tiennent, on les amène à l'audience. L'audiencement criminel, c'est des années avant de passer devant une cour d'assises ou une cour criminelle départementale. En fait, on a trop de dossiers qu'on ne peut en traiter. Les moyens de la justice augmentent, mais c'est un contentieux de masse, les violences
justement,
de l'intime.
Avant de donner la parole à Mourad Boudjelal, vous avez vu cette association qui a créé ce site qui s'appelle Classé sans suite.
Absolument.
Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est-à-dire c'est un site qui va recueillir les témoignages des personnes dont les plaintes ont été classées sans suite, avec peut-être le nom de la personne qui a été accusée et les témoignages. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est pour qu'en fait ça continue d'exister.
Il me semble que toutes les initiatives citoyennes qui concernent cette question des violences sexuelles sont importantes parce que ça nous permet aussi à nous magistrats, mais à vous aussi, membres de la société, de prendre la conscience du caractère massif de ces faits-là.
Mais avec les noms des personnes visées.
Oui, mais une fois que c'est sans suite.
J'ai pas vu qu'il y avait les noms des personnes visées.
Une fois que c'est sans suite, ça continue finalement d'exister via un site internet, alors que la justice.
Un classement sans suite n'est jamais définitif, hein, il faut le savoir. D'accord. D'ailleurs, dans l'affaire Bruel, il me semble que certains dossiers qui avaient fait l'objet de classements sans suite ont été rouverts par le parquet compétent.
Mourad Boudjelal, question.
Dans la continuité de ce qui a été dit, vous avez dit que que la justice sur des dossiers classés sans suite n'a pas été capable de démontrer que les faits, en l'occurrence la justice, c'est vous, quand vous classez sans suite, c'est vous qui n'avez pas été capable. Et j'avais envie de vous poser une question, parce que vous avez un métier qui n'est pas un métier passion, qui pour moi est un métier poison. C'est-à-dire un métier poison, c'est quelque chose qui vous hante jour et nuit. Et parce que vous avez une responsabilité, alors on peut vous critiquer. J'avais un métier que j'ai souhaité faire. Donc j'ai commencé des études et j'ai arrêté très tôt parce que j'ai compris assez vite que je ne supporterais pas la pression de me tromper et la responsabilité que ça engendrait. Et puis c'est un métier, on a du mal à vous imaginer autre chose que substitut du procureur de la République. Alors j'avais envie de vous demander, un peu comme dans la chanson de Goldman, est-ce qu'on arrive à avoir une vie à côté? Est-ce qu'on arrive à prendre des vacances, à faire un dîner romantique, à faire des choses qui n'ont rien à voir, alors qu'on sait parallèlement qu'à côté, on est toutes ces horreurs et après...
fameuse chanson, est-ce qu'on arrive à avoir une vie à côté?
Non, c'est la fameuse chanson où il assiste...
Vacances, est-ce que vous pouvez...
Et s'il assiste à un accouchement qui était un peu très, très, très difficile, et il se demande, la sage-femme, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Voilà.
Je l'ai déjà cité dans mes réquisitions.
Non, mais c'est Charles,
chanson,
en matière de chansons françaises, il a assez peu de culture, quoi.
Elle cite Goldman, mais elle cite Booba aussi.
Booba aussi.
Tout le monde m'en parle. Ouais,
donc,
Booba,
pour terminer ma question.
Je cite, quand une chanson se prête, si vous voulez, la justice, on en parlait hors antenne, ça ne ferait pas sens, me semble-t-il, de citer Victor Hugo ou Camus. Alors que quand vous citez une chanson, il y a des chances que la personne à qui vous vous adressez, parce que pour moi, il est fondamental que la justice soit accessible, eh ben une chanson, ça parle à tout le monde. Et j'ai déjà cité cette chanson-là dans des...
Alors, en résumé, est-ce que ça vous a pourri votre vie?
Est-ce que vous êtes hanté?
Ah, moi, je suis complètement hanté. La preuve, quand j'écris, je suis pas capable d'écrire autre chose
qu'un roman
à
plus.
C'est un exutoire. C'est une catharsis.
Pour votre vie, c'est une catastrophe, ce métier.
Je suis hanté. Nous sommes exposés à un niveau de violence, par exemple. Quand j'étais à Meaux, j'ai pris énormément de dossiers de viol sur mineurs, de détention d'images pédopornographiques, etc. J'ai regardé ces images parce que, quand même, pour juger quelqu'un, encore faut-il, c'est des images qui restent dans votre rétine pour toujours. Et si je parle de ça, c'est parce que je trouve que parfois il y a une espèce de tolérance sur le fait que c'est que des images. Je rappelle que l'âge moyen des enfants sur ces images de pédopornographie en 2021, un office central d'enquêteurs dit que c'est 8 mois ce sont des bébés, la pédopornographie. Et tout ça, c'est des choses que nous, les magistrats, on voit. Donc oui, ben, quand vous rentrez chez vous, quand vous avez des enfants, quand vous avez un conjoint, est-ce qu'on voit le mal partout?
Comment on fait
pour avoir une vie, quoi?
Je me souviens toujours ce que disait Olivier Marchal, qui est aujourd'hui réalisateur, mais qui a été policier pendant longtemps. Lui disait, il se déshabillait complètement avant d'entrer chez lui, etc. C'est une façon de... Donc quand il enlevait ses vêtements, d'enlever tout ce qu'il avait vécu toute la journée. Vous, c'est quoi? Vous avez un rituel?
Moi, c'est la même chose avec mes talons. Quand j'ai des talons, c'est que je suis en train de travailler. C'est relativement inconfortable. Ça me rappelle que je dois faire de mon mieux. Et dès que j'arrive, dès que je termine de travailler, j'enfile des baskets. Et tout d'un coup, c'est Valentine, la citoyenne, qui reprend ses droits et qui essaie de changer les idées.
Le meilleur pour la fin, Maître Consigny.
Mais écoutez, la future garde des Sceaux a écrit un livre très intéressant. Je pense que c'est pour ça que vous créez quelques jalousies au parquet en passant à la télé, en faisant un livre. C'est que c'est une manière de s'émanciper aussi un petit peu d'un corps qui est très très intégré. Vous savez que les magistrats sont la profession la plus endogame de ce pays. Et oui,
l'ignorer.
Et oui, les juges sont la profession dans laquelle on se marie le plus entre juges.
Ah, moi, je suis mariée à un avocat pénaliste, figurez-vous.
Ah bah, vous voyez. Bah voyez, ça montre votre ouverture d'esprit. Ah, oui. je ne doute pas que beaucoup des plaintes visant ses clients sont classées de ce fait.
Absolument pas.
Mais
évidemment.
Mais que vous avez acheté grâce à ça une belle maison sur la Côte d'Azur. Mais c'est les mœurs, c'est plutôt les mœurs à Toulon qu'à Paris, ce genre de choses. Non, je trouve ça très intéressant d'avoir le point de vue du parquet. Moi, je ne fais pas du tout partie de ces avocats qui sont en antagonisme avec le parquet. On l'est un petit peu sur les questions de détention. Et je trouve qu'en fait, on l'est surtout... je trouve que la grosse tension, elle est quand même surtout au stade des enquêtes, c'est-à-dire au stade de l'instruction, par exemple. C'est vrai que dans ces moments-là, je trouve le parquet insupportable parce qu'ils sont dans quelque chose de très... bête et méchant, très systématique, on est ferme, etc. Bon, il réclame par exemple des
Charles a des questions plus longues que les réponses.
Des détentions provisoires sans qu'une tête.
Charles en a envie revanche, de nous dire des choses.
Je trouve qu'à l'audience, une fois que tout ça est battu et rebattu, c'est possible de dialoguer avec le parquet. D'ailleurs, on va de plus en plus vers une justice négociée. Voilà. Mais moi, ce qui m'a quand même le plus interpellé, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est la manière dont vous prenez les choses à cœur, puisque on comprend bien que ce personnage, c'est quand même un peu vous. Il n'y a pas besoin d'avoir étudié l'art du roman pour le comprendre. Et moi, je me dis, mais bon, est-ce que ce métier est supportable pour quelqu'un qui prend... Moi, je vous avoue que, par exemple, j'ai eu des dossiers très durs. Avec, alors peut-être j'en ai moins, mais je termine là ma question. Je suis rarement rentré chez moi choqué par un dossier, même des dossiers criminels. J'arrive à passer à autre chose. Donc voilà, est-ce qu'une approche plus clinique, ou alors je sais pas, c'est peut-être les avocats qui ont une approche plus clinique, ou les hommes peut-être, ça on n'a pas le droit de le dire.
La différence, maître, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, mais nous c'est la masse en fait.
C'est peut-être ça.
C'est qu'en fait, quand vous êtes dans un parquet mineur, ce qui n'a pas été mon cas, quand vous avez une journée à ne faire que du courrier de viol sur mineur, par exemple, que d'étudier ces plaintes-là, évidemment que vous rentrez chez vous bien plus abîmé que quand c'est votre dossier, c'est celui que vous avez sur votre bureau, il n'y en a qu'un seul. Nous imaginez quand il y en a 50, imaginez là les collègues, tous mes collègues qui actuellement sont en train de revoir les 70 000 plaintes, ça va être des journées entières de travail dédiées
à ça. Avec les enquêteurs sur le dossier Epstein, ils sont tous en psychanalyse.
Au détriment
une grande part des enquêteurs, de ceux qui ouvrent les dossiers aux États-Unis, ont besoin de
plus près de ça, dans l'affaire Le Squarneck, excusez-moi, dans l'affaire Le Squarneck, les enquêtes, notamment une enquêtrice, elle a expliqué que ça l'avait cassé en deux. C'est-à-dire, elle a eu du mal même à recommencer à travailler, de voir ces 300 enfants, 400. Comment vous voulez faire?
Une dernière question, puisque c'est terminé. Une proposition politique, parce qu'il y a beaucoup de propositions depuis quelques jours sur la justice. Gabriel Attal, ce matin sur RMC, proposait un parquet national contre la pédocriminalité et les violences sexistes et sexuelles. On en a besoin de ce parquet spécialisé?
Moi, si vous voulez, ma réponse n'engage que moi. Oui. Mais il m'a semblé que la question de l'inceste, c'est une question, et des violences sexuelles sur mineurs, c'est une question tellement majeure dans la société qu'à mon avis, ça doit être au plus proche de tous les endroits. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut que ce soit les enquêteurs locaux, il faut que ce soit les parquets locaux qui connaissent.
Donc, il faut pas faire remonter tout à Paris.
Je n'en sais rien. Mon expérience, c'est de dire que ça doit être traité au plus proche pour pouvoir travailler avec les travailleurs sociaux sur la question de la détection de ces violences, de la protection des mineurs et de leur judiciarisation.
Merci d'avoir été avec nous, Valentine Vendôme, substitut du procureur. Merci d'avoir discuté, partagé votre expérience et lisez le polar. Dallas. Il s'appelle Panthère. Il est aux éditions Michel Lafon. L'été approche. Il y a peut-être un livre à embarquer et à lire.
Surtout que c'est
celui-là.
Sous le parrainage de Michel Houellebecq.
Absolument. J'ai eu une grande chance. C'est lui qui a trouvé le titre et qui a relu le manuscrit. Il l'a corrigé. C'était la première fois qu'il faisait cela.
Merci Valentine Vendôme d'être passée par les GG.